33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'appel sur l'actualité. Le vendredi, c'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez les sujets qui vous ont intéressé, interpellé, irrité ou ravi. Pendant 20 minutes, vous allez donc nous parler du Togo, du Mali, du Sénégal, du Cameroun et du PSG battu à domicile par Barcelone en Ligue des Champions. Vous nous donnerez vos pronostics pour le quart de finale retour. La libre antenne, c'est parti. La tension monte au Togo alors que la nouvelle constitution donne désormais au Parlement réunis en congrès, le droit d'élire sans débat le président de la République pour un mandat unique de 6 ans. Vent debout contre ce changement qui supprime le suffrage universel direct, l'opposition a décidé de participer, malgré tout, aux législatives avancées au 29 avril, mais en maintenant ces manifestations interdites par les autorités. Émeric, bonjour.
Oui, allô, bonjour Chantal.
Vous nous appelez de Lomé. Alors que pensez-vous de la décision des autorités d'interdire à l'opposition de manifester et de la réponse de cette dernière? On descendra quand même dans la rue.
Oui, je pense que c'est du coup normal des choses parce que le processus est relancé et je ne vois même pas l'importance de ce genre de manifestations. Donc, il va de soi que le gouvernement interdise ces marches-là. Je crois que c'est du tout normal.
Mais vous, vous auriez préféré un report des législatives?
Effectivement, lorsqu'il s'est agi plutôt de ce report, je me suis dit mais c'était de bonne guerre, puisque il a fallu que les députés retournent sur le terrain, informer aux populations de la nouvelle constitution qui est en vue. Et donc ce léger report était du coup normal et voilà, ça a été fait. Et voilà, aujourd'hui on nous communique que les élections se tiendront le 29, ça c'est très bien. Donc c'est la démocratie qui avance au Togo.
Mais le passage à un régime parlementaire, vous êtes pour ou contre?
Oui, nous sommes pour ce système. C'est parce que en amont, les populations n'étaient pas informées au départ. Donc, c'est ce qui a causé tout. Bien, maintenant, les députés sont descendus sur le terrain depuis il y a de cela plus de 3 jours. Les explications ont été données aux populations et je crois que chacun commence par rentrer dans le vif du sujet. Ce que comporte cette nouvelle constitution, je crois que c'est tout à fait bien pour notre démocratie.
Mais vous ne trouvez pas que le suffrage universel est plus démocratique?
Oui, dans tous les cas, tous les systèmes sont toujours bons et chaque système aussi a sa défaillance. Et je crois que cette nouvelle constitution en elle nous limite beaucoup de coûts, beaucoup de dépenses, parce que vous-même vous vous rendez compte que à chaque élection c'est des centaines de milliards, c'est des milliards que nous dépensons. Et là, avec cette suppression des élections présidentielles, je crois que c'est bien, ça va renforcer notre économie.
Merci Émeric, on va voir si David, qui nous appelle lui aussi de Lomé, est d'accord avec vous. Bonjour David.
Bonjour Madame Chantal.
Alors, est-ce que vous avez entendu ce que vient de dire Émeric? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aussi, vous êtes plutôt favorable à la nouvelle constitution et à ce passage à un régime parlementaire et à un parlement qui sera directement choisi par le Parlement?
Non, pas du tout. Je pense que cette nouvelle loi, c'est pour permettre aux partis au pouvoir de se maintenir au pouvoir.
Parce que vous pensez qu'en cas d'assemblée monocolore, on connaît déjà le résultat. On saura qui sera élu, qui sera choisi président?
Oui, le parti au pouvoir va tout faire pour gagner les élections législatives et se maintenir au pouvoir et continuer leur politique.
Et qu'est-ce que vous pensez du report des élections? Il fallait les reporter ou pas?
Oui, ce report, c'est juste pour leur permettre de sensibiliser la population, pour amener la population à accepter cette nouvelle loi. Donc c'est ça, dans ce cadre que le report s'inscrit.
Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous craignez des dérapages, des incidents, si l'opposition maintient ses manifestations en bravant l'interdiction?
Non, le parti au pouvoir va tout faire pour étouffer l'opposition. La preuve est qu'ils ont déjà arrêté 9 membres de l'opposition. Ils vont tout faire pour empêcher les manifestations. Ils vont tout faire.
Eh bien, on suivra ce qui se passe ce week-end au Togo. Merci beaucoup, David, d'avoir participé à cette libre antenne. On part pour le Sénégal, où le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a nommé il y a une semaine exactement un gouvernement dit de rupture. 25 ministres, dont seulement 4 femmes, aux affaires étrangères, aux pêches, à la famille et à la jeunesse et la culture. Ce gouvernement inclut aussi 5 secrétaires d'État, tous des hommes. Rama, bonjour.
Oui, bonjour Chantal, bonjour à tous.
Alors, 4 femmes sur un gouvernement de 30 membres, cela fait 13%, alors qu'elles représentaient 18% dans le gouvernement précédent. Comment avez-vous réagi à ce recul?
Bon, moi je pense que quand même, c'est un recul notoire, parce que du temps de Abdoulaye Wade, la condition des femmes avait beaucoup avancé au Sénégal. On a eu même une femme Premier ministre. Bon, cette condition a pratiquement reculé du temps de Macky Sall. Parce qu'on voyait des gouvernements de 40 ministres avec 7 ministres femmes. Mais les nouvelles autorités nous avaient vendu, en tout cas au moment de la campagne électorale, une rupture par rapport à l'action gouvernementale de ce qui se faisait avant. Mais là-dessus, on n'a pas, moi, je n'ai pas senti cette rupture. Parce que pour un gouvernement de 30 ministres pratiquement, on a eu 4 femmes. Et ces 4 femmes n'occupent pas pratiquement des ministères qui sont des ministères décisifs, des ministères régaliens.
Les affaires étrangères, c'est pas un portefeuille anodin.
À part la diplomatie, elles sont ministre de la femme, ministre de la pêche, ministre de la culture. Je ne dis pas que ces ministères ne sont pas importants, mais je dis que ce n'est pas des ministères, en tout cas, qui sont régaliens. Donc, je pense que c'est un déséquilibre qu'on doit souligner, en tout cas. Donc, voilà.
Et vous pensez qu'au sein même du PASTEF, Ousmane Sonko aurait pu trouver des femmes compétentes pour occuper des postes de ministre ou de secrétaire d'État?
Ben, tout à fait. Au sein du PASTEF, il y a des femmes qui sont diplômées, parce que à chaque fois, moi, je fais partie des rares quand même qui ont critiqué ce faible taux de représentation, ce faible taux de femmes au sein de ce gouvernement. Et à chaque fois, on me rétorquait l'argument de la compétence et de l'efficacité dans l'action. Ben, les femmes sénégalaises, leur compétence n'est pas à démontrer au niveau national et même au niveau international. Donc, au sein du PASTEF, il y a des femmes qui sont là et qui peuvent occuper en tout cas des postes, et même au-delà de PASTEF, il ne s'agit pas simplement de PASTEF, il s'agit maintenant du Sénégal. Diomaye est président de tous les Sénégalais, donc ils auraient pu en tout cas faire un maillage, faire un meilleur casting pour permettre aux femmes de participer à cet effort national de refonte de nos institutions et de relance de l'économie sénégalaise quand même.
Alors tout n'est peut-être pas perdu, puisqu'il y a un collectif de citoyens et de citoyennes, 255 personnalités et 24 organisations qui ont signé une déclaration hier dans laquelle ce collectif dénonce une sous-représentation des femmes, impossible à justifier. Il demande à rencontrer Bassirou Diomaye Faye. Vous pensez que ce collectif a des chances d'être entendu par le nouveau président ?
Oui, bon, moi, j'ai le sentiment que le nouveau président va les écouter. Parce qu'en tout cas, c'est une bonne action. Hein. Le Sénégal est fait d'hommes et de femmes. Il n'y a pas de raison que les femmes soient reléguées comme ça au second plan dans cet effort de relance de l'économie sénégalaise. Donc, je pense qu'ils auront le président de la République va les écouter. En tout cas, va apporter une solution à ce déséquilibre qui ne se justifie pas, en tout cas.
Merci beaucoup, Rama, d'avoir participé à la Libre Antenne. Bonne journée à vous. Direction le Mali à présent, où le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a décidé mercredi de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités des partis et des associations politiques accusées de subversion. La HAC, la Haute Autorité de la Communication, a aussitôt emboîté le pas de la junte. Elle a invité tous les médias à cesser d'évoquer les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations. La Maison de la Presse, qui parle au nom des journalistes, a appelé les médias maliens à ne pas se soumettre aux injonctions de la HAC. Dramane, bonjour.
Oui, bonjour, Chantal.
Vous êtes malien et vous nous appelez de Paris. Que pensez-vous de cette décision de la junte?
Oui, je trouve que la décision est normale, et parce que la situation du Mali actuellement ne permet pas qu'on fasse du désordre. Et c'est pas stable, donc faut éviter de sortir, de dire des choses qui déstabilisent encore plus le pays. Et je trouve que c'est normal.
Mais un pays où les partis politiques sont interdits, ça s'appelle une dictature, non ?
Non, vous savez, comme on le dit, la démocratie, trop de démocratie tue la démocratie. c'est pas de la dictature parce que ces politiciens, ils avaient le pays pendant plus de 30 ans. Et ces politiciens, je vais vous le dire, c'est comme le Mali, c'est comme un dromadaire. Et ces dromadaires, c'est ces politiciens qui l'ont jeté dans les puits. Et maintenant, les militaires sont venus pour extraire ces dromadaires du puits. Il n'y a que le coup qui est sorti. Et ils sont pressés pour s'accaparer encore de ces dromadaires. Et donc, il faut laisser qu'on le sorte totalement du trou et qu'eux puissent monter dessus. Et ils n'auront plus le droit de tomber et surtout faire tomber ces dromadaires encore dans le puits. Parce que c'est eux qui sont à la base de cette situation qu'on a vécue. Tout politicien digne de patriotisme ne doit pas s'afficher tout de suite maintenant pour réclamer quoi que ce soit au Mali pour l'instant, parce que la population
a eu
sa dose avec eux.
On a bien compris, Draman, votre point de vue. On va voir si un de vos compatriotes qui nous appelle de Bamako, Moïse, est d'accord avec vous. Bonjour Moïse.
Oui, bonjour Chantal. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Alors, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Draman, aussi sévère avec les politiciens?
Je pense que presque, hein, je ne trouve pas que c'est aussi trop sévère, parce que la vérité est qu'il y a eu une véritable radicalisation des différentes positions opposées, à savoir les autorités de la transition et les partis politiques, ce qui est amené à cela. Et la suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique est une réponse que les autorités de la transition ont accordé nettement aux partis politiques et associations qui s'étaient regroupés à une 80aine pour demander à ce que les autorités y aient une transition civile, parce qu'il n'y avait plus, les autorités de la transition actuelle n'étaient plus dans les droits de diriger la transition, parce que c'était nettement la fin. Ils n'ont réclamé autre chose que la transition civile et que le départ de ces autorités actuelles. Et c'est suite à cette revendication que les autorités, en leur tour aussi, ont apporté directement une réponse claire pour interdire les activités politiques, parce que le moment n'est vraiment pas le bienvenu. Et je pense que c'est une radicalisation des différentes positions qui nous a conduit à cela.
Et donc, tout espoir de dialogue est perdu, ou est-ce qu'il faut renouer le dialogue?
Non, il faut renouer les dialogues. Le dialogue est même en cours. Nous parlons actuellement d'un dialogue intermalien. Et nous sommes en pleine période de dialogue et ce n'est pas en ce moment qu'il faut directement demander aux autorités de dégager. Vous comprenez, le dialogue n'est pas rompu. Le dialogue est en cours et ça se passe très bien normalement. Les partis politiques est que la vérité ne font pas le poids à face aux autorités de la transition actuelle, aux yeux de la population et la population, la société civile et tout le monde.
Merci Moïse. Merci Moïse, on a bien compris votre point de vue également. Merci beaucoup d'avoir participé à Appel sur l'actualité, à cette libre antenne. Qui doit nommer le nouveau sélectionnaire des lions indomptables? C'est l'objet du bras de fer qui oppose, vous le savez, Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football, au ministre des Sports, Narcisse Mouelé-Combe. Pour remplacer Rigobert Song après la déroute de la CAN, le ministre a nommé le Belge Marc Brice, qui a atterri lundi à Yaoundé. Une nomination que la FECAFOOT a refusé de reconnaître. Mais contrairement à ce qu'on attendait, Samuel Eto'o n'a pas défié pour l'instant le pouvoir politique en choisissant un autre sélectionneur. Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs de RFI, bienvenue à Yaoundé au Cameroun.
Eh bien voilà, vous nous appelez de Yaoundé. Alors est-ce que pour vous l'affaire est pliée? Marc Brice est et restera le sélectionneur des Lions Indomptables?
Souffrez que je puisse exprimer au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, ma compassion émue pour son cher papa qui l'enterre demain samedi, des obsèques pour lesquelles le président de la République a désigné son plus proche collaborateur, à savoir le ministre directeur du cabinet civil de la présidence, adjoint de la présidence de la République, Oswald Baboupi. Ce qui unit les Camerounais doit être plus fort que ce qui les divise. Les lions indomptables unissent les Camerounais, ce n'est pas la nomination ou le recrutement d'un entraîneur qui doit les diviser. Il faut donner la chance au dialogue et à la contestation. Donc moi je pense qu'une fois que Marc Brice a été nommé, a signé son contrat de 2 ans et demi et a été installé dans ses fonctions, il faut passer à autre chose. Je ne vois pas un autre entraîneur de ce point de vue-là qui pourrait accepter l'offre de la FECAFOOT pour être nommé.
Très bien, Jean-Baptiste, je suis désolée, mais la ligne est très, très, très sourde. On a un peu de mal à vous entendre, mais on a bien compris hein, qu'il fallait maintenant passer à autre chose. On va partir pour Douala retrouver Xavier Edgar. Bonjour.
Bonjour.
Alors, êtes-vous d'accord avec Jean-Baptiste? Il faut passer à autre chose dans cette histoire qui a beaucoup fait réagir, hein, ce bras de fer entre le ministre des Sports et le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o?
Je suis désolé pour monsieur, mon président, là, qui parle de passer à autre chose. On ne saurait passer directement à autre chose de la sorte. Vu que, bon, au premier regard, ces accords qui ont été signés ne font pas foi de ce que j'appellerais contrat de travail. Le contrat de travail d'un entraîneur est soumis à la FIFA par le canal de la FECAFOOT, qui n'a malheureusement pas été sollicité pour la circonstance. Donc, je ne sais pas avec quoi on pourra aller tout de go comme ça, là, sans au préalable établir les bases du dit contrat. Moi, franchement, je ne serais pas d'accord avec lui.
Jean-Baptiste, vous êtes toujours en ligne?
Oui.
Qu'est-ce que vous répondez à Xavier Edgar, puisque lui, il dit que la FECAFOOT est indépendante et donc que ce n'est pas au ministère des Sports de marcher sur les plates-bandes de la FECAFOOT?
Non, la FECAFOOT, c'est une association sportive qui vit dans un pays. Et donc, l'État est garant de tout ce qui se passe dans ce pays-là. Je voudrais dire à toutes fins utiles que l'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas à la FECAFOOT, mais appartient bel et bien à l'État. Et lorsque vous avez suivi le discours du président de la République à la jeunesse le 10 février dernier, ce discours-là était clair. Il avait demandé au gouvernement et particulièrement au ministre des Sports de prendre des décisions pour pouvoir arranger les choses au sein de la sélection nationale après la débâcle d'abord de la Coupe du Monde au Qatar, mais surtout la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, de ce point de vue, il faut regarder en ce sens, le doigt du président de la République n'est pas à regarder, mais la direction de ce doigt-là. Et donc, je crois que c'est dans ce circonstance que le gouvernement, à travers le ministre des Sports et de l'Éducation physique, a pu prendre ses responsabilités.
Merci, Jean-Baptiste.
Il faut donner la chance au dialogue et à la concertation.
Voilà, ce sera le mot de la fin et on suivra la suite de cette affaire. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Baptiste et Xavier Edgar. On termine cette libre antenne avec encore du football, mais côté terrain cette fois, avec la défaite 3-2 du PSG mercredi soir au Parc des Princes face à Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Achille, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous nous appelez de Londres. Alors selon vous, est-ce que les carottes sont cuites pour le PSG ou est-ce que vous le pensez capable de s'imposer mardi prochain en terre catalane?
En foot, tant que le jeu n'est pas joué, ce n'est pas gagné d'avance. Donc je crois que tout est encore possible pour le PSG. Le PSG, à l'instant d'autres grands clubs, gagnerait à développer un jeu plus collectif et à éviter de baser son jeu sur des grandes stars du football.
Voilà, c'est ça pour vous, le problème de fond du PSG, c'est ça. Il n'arrive toujours pas à jouer collectif.
C'est l'un des gros problèmes. On recrute de grands joueurs au grand nom et on espère que ça fait une équipe. Le football est avant tout un sport collectif. Et le PSG gagnerait aussi à investir dans le développement des pépites au sein de son académie. Au lieu d'aller recruter toujours dehors des grands noms qui ont déjà fait leurs preuves, il faut aussi laisser du temps aux entraîneurs pour développer leurs équipes et leur accorder le crédit de connaître leur vestiaire et de décider de qui joue et joue pour pendant quelle durée pendant un match. Au lieu de tirer chaque fois sur les entraîneurs et de changer les entraîneurs tous les 2-3 ans, cela n'apportera rien de grand au PSG si le PSG envisage un jour gagner de grands trophées européens.
Alors quand vous parlez de grands joueurs, on pense évidemment à Kylian Mbappé. Il a été transparent mercredi soir, je crois qu'on peut le dire. Comment vous l'expliquez? Est-ce que quand même Luis Enrique n'a pas une responsabilité? Parce que plus Enrique le sort du terrain ou le laisse sur le banc, plus Mbappé perd confiance. Est-ce que ce n'est pas un peu dommage de se priver quand même d'un des meilleurs joueurs du monde? En deux mots.
Mais là, la réalité pour moi, c'est que Enrique est mieux placé pour savoir quand est-ce qu'il faut faire jouer tel ou tel autre joueur. Et les plus grands joueurs du monde ont des moments où ils n'ont pas la forme, qu'ils jouent ou qu'ils ne jouent pas les 90 minutes auxquelles ils sont habitués. Il va falloir qu'on s'habitue aussi que Mbappé n'est pas une machine, c'est un être humain, et il peut arriver que pour plusieurs raisons qu'il ne soit pas
Merci.
Au top de sa forme.
Merci beaucoup Achille. Un pronostic en deux mots pour mardi prochain?
4-2 en faveur de Paris Saint-Germain.
Merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Jessica, Valentine, Quentin, Margot, Eva et Masso Andro. Sans oublier Arès à la réalisation et Benoît au standard. Lundi, c'est Edouard Pénois, du Pénoat que vous retrouverez à ce micro.
Transfert via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.